Merci, pasteur Marjorie. Avant de passer à quelques annonces, j'aimerais prendre le temps pour prier pour les dîmes et offrandes, mais en vous rappelant, en nous rappelant des passages des Écritures. Vous savez, j'aime ce texte écrit par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 9. Ils étaient dans un contexte où Paul voulait remercier et encourager ceux qui voulaient contribuer, offrir une offrande à Dieu, mais pour d'autres églises, de le faire avec largesse, avec, sans contrainte, sans être contraint, sans être obligé. Et il va parler du principe de la semence. Et laisse-moi te dire que c'est important de faire la différence entre la semence et le pain. Le pain, le principe du pain, c'est pour que tu manges, c'est pour ton bien, pour ton bien physique, émotionnel, psychologique. Ce n'est pas seulement le pain chez Boulmich. Je ne veux pas faire la publicité pour nos boulangeries qui ne sont pas loin d'ici. Mais c'est aussi un principe de tout ce qui permet d'être bien, de satisfaire nos besoins. Ça, c'est notre pain. Mais il y a aussi la semence. On est appelé à semer. Nous sommes des semeurs. Parce que Dieu est un semeur. Il sème dans les vies. Et Dieu nous appelle à marcher comme lui. Donc, être en mesure de semer dans les vies, dans la vie de ton prochain. Quand des fois je parle avec certains leaders, avec les leaders de l'Église, quand je prends le temps d'échanger avec eux, on voit ce que Dieu a déposé dans leur vie. Et en discutant, en ayant des échanges avec eux, je vois une semence qu'ils utilisent et qu'ils sèment dans ma propre vie. Et je ferai le lien dans quelques instants. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, sachez-le, au verset 6, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Pas comme le pasteur l'a décidé ou l'a suggéré, non pas comme l'Église le suggère, mais comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Hein, vous êtes, oui, hein, amen. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. Je vais le relire. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Donc, tous vos besoins et toute œuvre bonne. Juste une petite parenthèse. Au mois d'avril, on voulait bénir nos fils avec des vélos. Et puis, Dieu a pourvu. Et je suis fier, en tout cas, je suis content pour eux, parce que mon rêve d'enfance s'est aussi manifesté dans la vie d'un de mes garçons. J'ai toujours rêvé d'avoir un BMX. Vous connaissez les vélos BMX? Et puis, mon garçon, mon plus jeune, a eu un BMX. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me disait, « Papa, je veux un BMX. Il ne faut pas de frein, parce que si tu tournes le volant, le guidon sur lui-même, mais les câbles du frein vont se prendre dans le guidon. Et Dieu a fait grâce qu'on trouve un BMX où tu peux tourner sans que les câbles se tiennent autour du guidon. Dieu a pourvu, a béni. Mais Dieu nous amène, nous bénit aussi pour qu'on puisse bénir, faire des largesses. On est conçu pour ça. On est conçu pour recevoir, mais on a été aussi conçu pour donner et relâcher la vie. La semence semée, c'est amener la vie. Et la parole de Dieu, oui, bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas enseigner. Alors, je vais vous encourager à vous rappeler ça. Et la parole de Dieu nous dit au verset 9, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Et c'est un extrait du psaume 112. Alors ce matin, je veux prier que vraiment que la semence abonde dans vos vies. Mais si vous voulez cela, que la semence abonde, ok, je vais vous demander de vous lever. Mais si vous demandez, je vous donne le truc qui est derrière, si vous voulez que la semence abonde dans vos vies, la semence ne peut pas être retenue. Mais si la semence abonde, c'est que ce que Dieu a prévu pour que vous possédiez va abonder aussi. Vous me suivez? Alors, si certains veulent que la semence abonde, simplement vous levez. La semence, c'est pour investir. OK? All right. Si la semence abonde, c'est que Dieu aussi va vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à vos besoins. Seigneur, nous venons devant toi parce que nous voulons que la semence abonde dans nos vies, afin que nous puissions la relâcher, pour que la vie prenne place autour de nous, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans la vie de nos amis, que ce soit dans la ville ou dans notre église. Seigneur, que ce soit même dans la vie de nos collègues. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que la semence puisse abonder, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, bénir, sachant que toutes tes grâces, Seigneur, seront notre partie, notre part, afin que nous possédions toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à nos besoins. Nous voulons, Seigneur, être comme toi. Nous voulons être des hommes et des femmes qui sachent semer pour ta gloire. Seigneur, je prie, Père, que ta semence abonde dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui se sont levés, que tu puisses les conduire en toute sagesse afin, Seigneur, de pouvoir répandre cette semence et bénir, Seigneur, leur entourage pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir rapidement. Je voudrais faire quelques annonces. Avions-nous prévu la vidéo aimer ce matin? Oui? OK. Alors, on va passer la vidéo aimer et ensuite, je reviendrai apporter quelques précisions. Simplement fermer les lumières derrière pour nous. Merci.
Bonjour à tous. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Le Saint-Emmanuel nous a autorisé, Suzanne et moi, à présenter les ateliers aimés pour les couples qui fréquentent le Carrefour des Nations. Maintenant, le Saint-Emmanuel, c'est un ministère chrétien qui est dirigé par une psychologue chrétienne, Mme Sonia Gagnon, et une équipe d'intervenants où Suzanne et moi, on a été formés. Bon. Maintenant, on va présenter les ateliers aimés aux couples du Carrefour des Nations, mais malheureusement, ça ne s'adresse pas à tous les couples. Non. Ça s'adresse seulement à ceux qui ont le souci de cultiver leur amour. Ça s'adresse aussi à ceux qui veulent donner un second souffle à leur couple. Ça s'adresse aussi à ceux qui veulent donner une dernière chance à leur couple. Il y a aussi les couples qui veulent, qui désirent faire de la relation d'aide auprès des couples. Bien, ça va être un atout majeur pour eux, pour se centrer sur les besoins puis les problèmes qu'ils rencontrent. Bon, les principaux objectifs des ateliers aimés, c'est d'évaluer, à la lumière des Écritures, les fausses croyances que je nourris concernant ma vie de couple. Identifier les écueils de ma vie de couple, développer des habiletés de communication, développer des habiletés de résolution de conflits, développer une intimité spirituelle, émotionnelle et physique, et comment bien gérer les biens et l'argent que Dieu nous donne. Comme c'est important de faire le bilan de santé chez un médecin, il est aussi important de faire un bilan de santé de notre vie de couple. Les ateliers aimés nous permettent de faire ce bilan et d'apporter les ajustements nécessaires, mais en étant accompagnés. Une soirée aux ateliers aimés, c'est divisé en trois parties. La première partie, elle est théorique, c'est Suzanne et moi qui la donnons. La seconde partie, c'est un temps de couple privé, où on met en pratique ce qu'on vient de voir. La troisième partie, c'est deux réunions de groupe. Suzanne avec les femmes, puis moi, je vais être avec les hommes. Et on va prier et on va partager nos difficultés et nos besoins, si on veut. Puis, pourquoi? Parce qu'à la gang, bien, on va l'avoir. Afin de connaître tous les détails pour vous assurer une place aux ateliers aimés, parce qu'il est important de savoir que les places sont limitées. Je vous invite à consulter la fiche sur le site du Carrefour des Nations ou sur le Babillard. D'ici là, bonne réflexion et au plaisir de se rencontrer.
Si certains veulent applaudir, ils peuvent le faire. Hein? Alors, j'ai vu beaucoup de couples applaudir, donc je vous attends aux ateliers aimés. Il s'agit d'une série de 15 ateliers visant à développer l'intimité, visant le développement de l'intimité, de la maturité, de l'engagement et de la restauration des couples, d'où l'acronyme AIMER. Objectif des ateliers: évaluer à la lumière des Écritures les fausses croyances, les mensonges que je nourris concernant ma vie conjugale et la volonté de Dieu. Me rappeler qui est Dieu et ce qu'il veut faire pour moi. Évaluer ma relation personnelle avec Dieu. Évaluer ma compréhension et mon désir de renoncer à mon moi, à ma chair. L'amour agapé. Identifier les écueils de notre couple. Développer les habiletés de communication, développer des habiletés de résolution de conflits, développer des habiletés d'échange positif, développer une intimité spirituelle, émotionnelle et physique, l'amour philéo et éros, apprendre à pardonner et gérer les biens et l'argent que Dieu me donne. Je veux vous inviter, il reste deux dimanches. Pour s'inscrire, on fait un dimanche, mais on fait une petite extension. Le 14, c'est samedi, et puis on fait une extension de 24 heures, le 15. Après ça, on ne pourra plus s'inscrire aux ateliers. C'est vraiment, si on appelle ça un outil, c'est un outil extraordinaire. C'est une ressource pour vous, pour nous, pour la famille du Carrefour des Nations, pour les couples. Lorsque les couples marchent dans un processus de restauration, de santé, de renforcement de leur relation, non seulement, vous savez, je ne sais pas, je pense que dans la société, il y a cette recherche du bien-être à travers les possessions. Mais la parole de Dieu nous dit qu'une maison qui n'a que du pain, mais qui a de la joie, est préférable à une maison qui a des richesses et qui a de la division. Aïe. On dirait que, en d'autres mots, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ça aide, mais ça ne fait pas le bonheur. Mais un couple en santé, les bateaux de ressources vont venir à la porte de ce foyer. Alors, prenez le temps en sortant de la chapelle, procurez-vous le dépliant, parlez-en à votre épouse. Si ce n'est que le soir après avoir couché les enfants, let's go, faites-le. Si c'est seulement au petit déjeuner parce que vous allez travailler et puis vous avez des horaires complexes, faites-le, discutez et je vous invite à vous inscrire. Et j'aimerais prier pour vous, responsables de ces ateliers. Je veux vraiment vous honorer, Suzanne et Denis, et déclarer la faveur de Dieu sur vos vies. Alors, soyez à l'aise, vous pouvez être debout ou assis. Seigneur, je veux te dire merci pour ce couple qui se donne. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que tu puisses leur redonner au centuple. Seigneur, tu as déposé des richesses dans leur cœur. Tu leur as donné, Seigneur, un cœur qui aime. Et Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu les as équipés afin d'équiper d'autres couples. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je prie et nous relâchons ta faveur en tant que famille spirituelle, en tant que communauté de foi. Nous déclarons ta faveur sur leur vie dans le nom de Jésus. Amen. C'est un trésor national. OK? J'aimerais aussi parler de notre trésor, de notre couple, qui est un trésor aussi pour nous. Ça ne fait pas des années que je les connais. On a eu quelques contacts au cours de la pandémie alors qu'ils se joignaient à nous. J'aimerais vous parler de la famille Trédoux qui sont là, qui sont présents. Si vous voulez vous lever, je ne veux pas vous gêner, mais j'aimerais que vous puissiez vous lever. Et vous pouvez applaudir. Je pense qu'ils en ont besoin. Et j'inviterai peut-être deux ou trois couples juste se tenir à leur côté parce qu'on va prier pour eux. Ils sont actuellement éprouvés et une de nos sœurs, la sœur Jemima, m'a fait part d'une perte. Pour chacun d'eux, ils ont chacun en quelques jours perdu chacun leur père. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Vous savez, quand on n'est pas dans sa ville natale, avec ses proches, sa famille, c'est difficile. Et je crois que peu importe la ville où on se trouve, on peut trouver une famille de foi. Et nous sommes cette famille pour eux. Alors, j'aimerais qu'on se joigne ensemble pour prier pour eux. Et alors que ces quelques couples se sont joints à eux, on va prier vraiment pour la consolation. Mais soyez à l'aise, après le culte, d'aller les saluer, les encourager. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un Dieu qui est parfait. Et que nous puissions manifester notre soutien, notre affection envers ce couple qui est dans le deuil. Père, Seigneur, je veux te présenter... Seigneur, tes enfants, ta fille et ton fils. Seigneur, te demandant, Seigneur, ton soutien, ta consolation. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, d'être généreux. Seigneur, généreux en amour, généreux en temps. Seigneur, pour prendre soin d'eux, pour les aimer, pour les accompagner dans ce deuil. Seigneur, sois leur consolateur. Sois celui qui recueille leurs larmes, mais aussi qui les console et qui les fortifie. Seigneur, nous prions, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans le deuil actuellement. Seigneur, accompagne-les dans la restauration. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, vous pouvez aller les saluer après le culte. J'aimerais revenir sur trois annonces avant de laisser la parole à notre invité, pasteur Marjorie. J'aime bien faire ce petit clin d'œil. Vous rappelez qu'à partir de mercredi, les études bibliques recommencent sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc est un magnifique évangile écrit par Luc. Il est aussi l'auteur de l'Acte des Apôtres. Et avec pasteur Christophe, qui est en vacances, okay, il n'a pas été enlevé au ciel. Okay? Okay, si vous ne le voyez pas, c'est parce que ce n'est pas une pratique de l'enlèvement. Je crois qu'on a besoin de repos et il est actuellement en vacances. Mais mercredi, nous allons recommencer les études bibliques avec lui. Donc, soyez des nôtres. C'est en présentiel à 19h. Les portes vont être ouvertes de 18h45 à 19h15. étant donné que nous sommes au collège. Donc, soyez des nôtres et vous allez être vraiment bénis. Je voudrais aussi vous rappeler que nous avons un pique-nique, le pique-nique de toute la famille du Carrefour des Nations, le samedi 21, merci Yamilette, 21 août, au parc Saint-Benoît. Vraiment là, soyez des nôtres, que nous puissions connecter, prendre le temps de connecter. Vous savez, une famille, ça se parle. Une famille, ça jase, une famille, ça joue ensemble, ça échange. Et c'est vraiment une occasion de connecter. On a choisi le parc Saint-Benoît. Vous savez pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des enfants dans la gagne, comme on dit au Québec. Et une gagne a besoin de s'amuser. Donc, soyez des nôtres. Et il y a de beaux visages que je vois ici. Et je suis sûr qu'ils sont chacun porteurs de belles voix. Donc, que ce soit un temps pour entendre ces voix, ces personnes échanger ensemble. Et je veux saluer Anne et David. Ils se sont connectés à nous pendant la pandémie. Juste faites un petit allô. Un petit allô. Ils viennent de l'île de la Réunion. Faites un petit allô et vous avez le droit de les embêter. OK? Vous avez la bénédiction pastorale pour ça. Dernière chose, et non pas des moindres, vous savez, il y a des personnes qui, par exemple, vont s'occuper de vos enfants pendant les cultes, pendant les célébrations, de vos poupons. Ce sont des personnes de valeur. Et il y a des personnes qui s'occupent de l'accueil. Ce matin, on est arrivé à 8h05 à peu près, et il y avait déjà une sœur, notre sœur Jessica, qui mettait la bannière dehors. Et tout ça, c'est sous un leadership. Et c'est sous un leadership de différentes personnes. Et ces personnes, on veut investir dans leur vie. Parce que arriver un dimanche matin à 8h moins 10, 8h moins le quart, parce qu'on veut que tu connectes avec Dieu. On veut que Dieu te touche. On veut qu'une parole à propos soit relâchée dans ta vie. On veut que tu vives non pas une touche, non pas une visitation, mais une transformation et une habitation de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien. Et ça prend des hommes et des femmes qui disent oui. Et ces hommes et ces femmes prennent des fois la responsabilité de gérer, de s'associer à d'autres personnes pour faire l'œuvre. Et ce sont nos leaders. Et nous avons une retraite leader pour les leaders. Samedi le 28 août. OK, samedi le 28 août. Et je veux le dire publiquement parce qu'ils ont reçu un courriel. Mais on veut que l'Église sache qu'on investit dans la vie d'hommes et de femmes afin qu'à leur tour, ils investissent dans vos vies. Dieu veut que vous brilliez. Lève-toi et brille. C'était le message de dimanche dernier. Lève-toi et brille. Une lumière, on ne la cache pas dans un placard, mais on la met pour éclairer la maison comme les villes brillent. Et même de l'espace, on les voit briller. Que de l'espace, on puisse te voir briller pour la gloire de Dieu. Alors, ce rappel à nos leaders, il y a quelque chose aussi pour vos enfants. Alors, soyez à l'aide d'être des nôtres le 28. Je laisse la minute vidéo pour les annonces. Les quoi? J'ai pas compris, c'est du live. Hein? Retire le masque. C'est du direct, on est en famille, d'accord? Ok, c'est ça, il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'inscrive à l'atelier aimé. Hein. All right. Ok, alors, oui, il y a aussi, j'en profite, je pense que, il y a une famille qui va se joindre, qui va se joindre à nous, qui vient d'Afrique, du Rwanda, et on aimerait solliciter votre soutien. Ça nous a touché parce que dans toutes les démarches d'immigration, c'est une famille donc avec un enfant Et malheureusement, le père est décédé. Donc, il ne viendra pas au Canada, c'est seulement l'épouse et leur fille qui vont s'installer à Québec. Et on aimerait solliciter, pas des dons en argent, mais il y a différents besoins que vous pouvez voir sur notre page Facebook, des besoins de meubles. Avec cette perte, ça désorganise énormément. Et on a besoin de les soutenir. On a besoin de les soutenir. Et vous voyez à l'écran, vous pouvez contacter notre sœur Bonnie, Bonnie Frida, mais on la surnomme Bonnie, au courriel qui apparaît ici. Mais sur notre page Facebook, il y a des informations aussi pour si vous avez un canapé que vous aimeriez donner, mais vraiment pour les aider à s'installer, pour passer ce cap qui est non seulement d'immigration, mais aussi de deuil, qu'on puisse les aider. Alors, contactez notre sœur, elle va tout coordonner, mais nous sommes en arrière comme église pour accompagner cette installation à Québec. Alors, soyez à l'aise d'aller sur notre page Facebook. Et là, maintenant, je laisse les annonces passer pour une minute. Magnifique. J'aimerais qu'on puisse prier pour ce temps de partage des Écritures, et puis on fera aussi en même temps la lumière dans la chapelle. Alors simplement se joindre à moi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu as déposée sur le cœur de Pasteur Marjorie. Seigneur, que cette parole puisse trouver une terre qui est malléable. Seigneur, une bonne terre afin, Seigneur, de porter un fruit pour ta gloire. Seigneur, je la bénis dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous allez bien? Vous avez été bénis? Oui, hein? Donc, on peut juste s'en aller. Non, je vais courtement partager dans le temps qui me reste. Mais ce matin, je crois que c'est un message qu'on a tous besoin d'entendre au moins une fois. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en tant que chrétiens, chacun d'entre nous? Pasteur Bruno me disait, moi je disais, le mois d'août, on doit parler de l'appel de Dieu. On va prier pour ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu, l'appel à servir dans l'Église, mais aussi à être un témoin à l'extérieur. Puis lui, il me disait, le thème, c'est influence. J'étais comme, oui, mais c'est l'appel de Dieu, il faut parler de l'appel de Dieu. Finalement, je me rends compte qu'on disait la même chose. Donc, je me suis alignée à lui, puis le thème pour ce mois-ci, c'est vraiment influence. Et alors que je réfléchissais, je me disais, pour être une influence, on a besoin d'être influencé. On a besoin de se laisser influencer. Puis je crois que si on ne se laisse pas influencer de la bonne manière, on ne peut pas devenir une influence à notre tour autour de nous. Donc, on doit apprendre à porter cette influence de Christ en nous, puis devenir une personne qui a de l'influence autour de nous. Et souvent, on va dire, être un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence, mais je crois que chaque personne, on a une sphère d'influence dans notre vie. On est un modèle pour quelqu'un à quelque part. Et ce matin, j'aimerais parler de quelqu'un que j'admire beaucoup dans la Bible. Si j'étais un homme, j'aimerais ça qu'on m'appelle Paul. mais juste à cause de comment il a vécu sa vie avec Christ, comment est-ce qu'il n'y a plus rien qui comptait à partir du moment où il a rencontré Jésus. Et ce matin, j'aimerais rapidement parler de Paul, mais surtout m'arrêter sur qu'est-ce qu'il est devenu après sa rencontre avec Christ, qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie. Et je crois que chacun d'entre nous, on est appelé à être une influence, un modèle dans la vie de quelqu'un. À partir du moment où on est avec Christ, je pense que c'est notre devoir de chercher intentionnellement à influencer et à amener des gens à connaître Christ, mais de vraiment être intentionnel dans notre vie personnelle. Donc, je vais juste prier pour ce message, puis ensuite je vais rentrer dans mon sujet. Seigneur, je veux juste soumettre ce message à toi. Et Seigneur, que seulement ce qui est bon, ce qui vient de toi, demeure, Seigneur, et porte un fruit. Et Seigneur, je prie que le fruit, Seigneur, aille au-delà de mes simples paroles, que vraiment ça puisse germer et que chacun puisse marcher dans ce que tu as mis en lui, en elle. Seigneur, qu'ils deviennent ses modèles, Seigneur, et qu'ils puissent être à l'aise de dire à quelqu'un de les imiter comme Paul l'a fait avec les chrétiens de son temps, de dire « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Qu'on devienne des imitateurs, qu'on devienne des imitateurs de toi, afin que quelqu'un à quelque part puisse être à l'aise de nous imiter et te rencontrer. C'est toi qu'on veut pointer, Seigneur. On veut pointer chaque individu à toi, Seigneur. Merci pour ce que ça va produire. Merci pour ce que tu veux faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quand on regarde l'histoire de Paul, on se rend compte que c'est un Hébreu. Paul va se décrire comme un Hébreu de la tribu de Benjamin. Et Benjamin, c'est la tribu où est-ce que on a Isaac, le fils d'Abraham, qui a eu deux fils, et un d'entre eux qui s'appelle Jacob, qui va finalement changer de nom quand Dieu a une rencontre avec lui. On pourrait quasiment dire que Jacob a eu le même type de rencontre que Paul, mais on n'ira pas là aujourd'hui. Mais et puis, Dieu va changer son nom pour Israël, il va avoir 12 fils, et son dernier fils s'appelle Benjamin. Et on a la tribu de Benjamin. Ces 12 fils, il y a des tribus par rapport à leur nom. On a Lévi, on a Juda et on a Benjamin aussi. Et donc Benjamin, cette tribu-là, quand on regarde dans la parole, on va voir que Saül, c'est un des rois qui descendent de la tribu de Benjamin. Et il y a vraiment une historique de violence dans cette tribu-là. Mais je n'irai pas là non plus. Mais je veux juste vous dire que Saul, Paul, descend de cette tribu-là. Et donc, lui, il se considère comme un héritier direct de Abraham. Il est hébreu, fils d'hébreu, et donc, selon la loi, pharisien. C'est comme ça qu'il va se décrire dans Philippiens 3, verset 5. Il va dire, « Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. » On voit une fierté. C'est un Hébreu né d'Hébreu. Et quant à la loi, pharisien. Et pharisien, c'est une des portions de, on va dire, au niveau religieux, qui suivent la loi de la façon la plus stricte. Donc, tout ce qui vient à l'encontre de la loi doit être banni parce qu'il faut suivre la loi. Ils vont mettre en place 601 lois pour s'assurer de répondre à la loi, d'obéir à la loi. Donc, ils vont mettre des choses en place strictement pour respecter le sabbat, pour respecter certaines choses. Et donc, il y a un effort volontaire pour s'assurer de répondre à la loi. Sauf que celui qui va nous expliquer le plus la loi et la grâce, c'est Paul. Et Paul faisait partie de ces gens. Et donc, Paul va être de ceux qui vont persécuter l'Église. On va mentionner dans la parole que lorsque il y a eu Étienne qui a été lapidé, Paul tenait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Il était présent. Et donc, c'était quelqu'un qui faisait intentionnellement des meurtres, qui était meurtrier. Et si on regardait juste aujourd'hui à faire des choses pour Dieu, en pensant qu'on répond à la loi de Dieu et les appliquer avec violence, on pourrait même dire, je lisais hier un commentaire sur Internet qui disait, on pourrait quasiment dire que c'était un terroriste religieux, Paul. Dans le sens que tout ce qui ne répondait pas à la loi, tout ce qui ne correspondait pas, devait prendre le bord, aller en prison. Il attrapait des chrétiens en masse, puis les mettait en prison, puis les condamnait à mort. Et donc, on a cet homme qui se lève et qui s'en va chercher des lettres. C'est lui qui s'en va chercher les lettres afin d'aller à Damas et d'aller chercher... Il était en chemin pour aller chercher des chrétiens, pour les ramener avec lui et pouvoir les condamner, puis les mettre en prison ou les battre ou faire toutes sortes de choses. Donc, si on regarde, il se considère comme citoyen romain, persécuteur, hébreu, fils de pharisien et de la tribu de Benjamin. Et donc, ce qui va changer dans la vie de Paul, c'est la rencontre avec Jésus. Et quand, alors qu'il était en route, on va lire le texte ensemble dans Actes 9, versets 1 à 22. Je vais juste prendre le temps de le lire tranquillement et vraiment qu'on puisse passer au travers. Donc, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin, en passant, je ne veux pas être appelé Paul avant qu'il devienne chrétien, hein? Vous avez saisi. Je veux le Paul d'après Jésus. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière, parce que mon texte... Acte 9. Désolée, les joies du PowerPoint. Hein? Comme il était en chemin, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on va te dire ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Paul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Et Ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saül en disant, « Salut mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'était-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Ce matin, j'aimerais vous proposer que Paul, à sa rencontre avec Jésus, il aurait pu faire le choix de continuer à marcher et de dire, c'est un canular, quelqu'un me fait un mauvais coup, quoi. Mais la puissance de Jésus était tellement forte. Cette lumière qui est venue comme l'aveuglé, aveugle pendant 3 jours, Dieu est venu et a transformé sa vie à jamais. J'aimerais proposer que là, Paul a vécu une délivrance, qu'il a vécu une transformation radicale et que ce même Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, encore aujourd'hui, c'est le même qui peut toucher la vie de quiconque veut venir à lui, quiconque veut changer de voie, quiconque veut changer de voie de méchant à être disciple de Christ. On voit ici, il passe de persécuteur à 3 jours plus tard être un apôtre, être un disciple qui commence à parler, qu'il croit que Jésus est le Messie. Se laisser influencer. On va voir Paul plus tard, c'est cet homme qui va se lever, qui va se battre pour la cause de Christ. On va voir dans Philippiens 3, versets 6 à 9. Paul qui est en train de témoigner et il va dire ceci. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quand il parle de « je les regarde comme de la boue », pour suivre Christ, Paul est en train de mentionner d'où il vient. Paul, si on regarde bien, si on regarde que Saül, c'était un roi et qu'il descendait de la tribu de Benjamin, on peut croire, on peut dire assurément que Paul a une lignée royale. Il renonce à ça. Il va renoncer à ses études. Dès l'âge de 13 ans, ses parents l'ont mis à la synagogue. Il a étudié auprès de Gamaliel. Il va le dire à plusieurs reprises qu'il a été enseigné, qu'il a appris les choses de la loi, qu'il les a tellement appris que ça en a fait un fanatique. Et donc, Paul sait de quoi il parle quand il dit « Je renonce à tout ça. Quand je viens parler, je ne me base pas sur un discours persuasif parce que je pourrais le faire, parce qu'il est capable, il sait de quoi il parle quand il dit. C'est vraiment un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît. Et il va dire « Je renonce à tout ça pour gagner Christ. Christ est un gain pour moi et toutes ces choses pour moi maintenant, c'est du passé. » Il dit « Et afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc Paul ici renonce à la loi pour marcher avec Christ et il se laisse pleinement influencer par Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais nous encourager, nous aussi, à nous laisser influencer par Jésus-Christ. Oui, peut-être qu'on a fait des études, oui, peut-être qu'on a des biens, on a des choses. Puis à un moment donné ou à un autre, on sera confronté à choisir, est-ce qu'on veut Jésus, est-ce qu'on veut plus de lui ou on veut rester comme on est. Et peu importe là où on est rendu avec Dieu, il y a toujours quelque chose à laisser pour avoir Jésus. Si je peux parler juste pour mon propre témoignage, je viens d'une famille où mon père était prêtre vaudou et c'était vraiment dans la ville où on était, c'est une ville reconnue pour tout ce qui est sorcellerie et tout, et mon père était un des maîtres. Donc dans le sens que on avait beaucoup de biens, des jardins, des maisons, il construisait des maisons pour des gens. Et quand je suis devenue chrétienne, c'est pas tout de suite que le Seigneur m'a dit ça, tu pourras pas y toucher. C'est en 2010, alors que on a notre deuxième enfant, mon père décède et j'ai une de mes tantes qui me fait appeler pour me dire, je veux juste te dire que tous les biens que tout un village là, tout les maisons et tout, que je veux te dire que c'est à moi et que je vais les prendre. Et j'entends Dieu me dire, tu n'iras pas prendre cet héritage, tu le laisses, je suis ton héritage. Et ce jour-là, j'étais là, j'ai dit, mais attends, c'est parce que si je regarde juste là, je pourrais juste prendre une seule des maisons, puis je le loue, puis j'ai une rente à tous les mois. Puis, tu sais, des fois, on est dans des pays, dans ces pays-là où est-ce que les gens payent avec de l'argent américain, alors, tu sais, Je pourrais être bien. Et puis, Seigneur, je l'entends, je suis ton héritage. Et donc, il a fallu cette fois-là que je dise, non, je n'irai pas prendre cet héritage-là. Et donc, ensuite, le Seigneur m'a fait des promesses pour lesquelles je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Puis, il y a comme cette incertitude, est-ce que ça va arriver? Tu sais, on a des saisons où est-ce qu'on croit plus à la promesse, puis d'autres où est-ce qu'on se dit, ben, comment tu vas faire, Seigneur? Mais je sais que mon Dieu, s'il dit qu'il est mon héritage, il est mon héritage. Et ce matin, je vais encourager quelqu'un qui a laissé des choses pour Christ, qui a abandonné des choses pour Christ pour dire, maintenant, Seigneur, agis dans ma vie. Laisse-moi te dire qu'il est fidèle. Il a été fidèle avec Paul. Cet homme a écrit, a mis en place tout ce qui est notre compréhension de la grâce de Dieu. C'est Paul qui explique c'est quoi la grâce de Dieu. Quand on lit Galates, on se rend compte qu'il va nous expliquer comment marcher dans les choses de l'esprit. Galates 5, 22, il va expliquer c'est quoi les œuvres de la chair et c'est quoi les œuvres de l'esprit. Comment faire pour marcher et répondre aux critères de Christ qui sont plus élevés que les critères de la loi. Paul va nous dire que même si les pharisiens avaient tous ces critères, toutes ces choses qui étaient super hyper difficiles à répondre, répondre à la loi de Christ, c'est encore plus difficile. Parce que là où il y a la loi du talion, où on te dit œil pour œil, dent pour dent, ce qui veut dire que si quelqu'un te casse un pied, tu ne vas pas le tuer, mais tu vas faire la même chose. Jésus va dire, si tu casses un pied, ne réponds pas. S'il te gifle, tourne l'autre joue. Sa loi ça est encore plus élevée que ce que la loi demandait. La loi révélait le cœur, comment on est fait. Mais Christ vient, et il nous demande des choses, il nous donne la possibilité d'y répondre. Il dit, pour répondre à ma loi, à moi, la loi de Christ, c'est de marcher selon le Saint-Esprit que je te donne pour marcher selon ma loi. Donc, il vient lui-même nous aider. Et Paul va nous enseigner ça. Il va nous apprendre. Quand on lit Éphésiens, on voit que Christ est le chef de toute chose. Il domine sur tout. Et cette puissance qui est en Christ est donnée à l'Église, est donnée à ses enfants. Et il nous dit, vous pouvez marcher et dominer comme Christ a dominé. On ne parle pas d'une domination au niveau physique. comme les Juifs du temps de Jésus s'attendaient à ce que Jésus vienne régner au niveau physique, mais on parle d'un règne qui est spirituel. Et Paul va nous aider à comprendre notre position en Christ. Là où on est assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est Paul qui va en parler. Ce même homme qui poursuivait les chrétiens pour les mettre à mort, maintenant devient une lettre vivante pour Christ. Il fait la promotion du royaume des cieux. Il fait la promotion de Christ jusqu'à être flagellé, laissé pour mort plusieurs fois. Jésus va lui dire, je vais te montrer ce que tu vas souffrir pour moi. Et il va vraiment souffrir dans sa chair physique. Les endroits où Paul parle de la joie, par exemple, dans Philippiens, il est en prison. Il est en train de dire, honorez le roi qui m'a mis en prison. Prie pour le gouvernement et soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, priez pour les autorités et honorez le roi. Il va mentionner des choses qui ne sont que le fruit de quelqu'un qui marche en esprit et qui a compris la différence entre la loi et la grâce. On voit un homme qui va élever des enfants spirituels, qui va devenir un père spirituel. D'un meurtrier, il devient un père spirituel, va parler à Timothée. Marche selon ce qu'on a mis sur ta vie, ce qu'on t'a communiqué par imposition des mains. Marche comme un évangéliste. Marche selon ton appel. Timothée, mon fils, Timothée, chrétien. Cet homme qui tuait des chrétiens maintenant élève des chrétiens puissants, les établit sur des églises. Il écrit à une église, il y a 13 lettres et épîtres de l'apôtre Paul qui nous, aujourd'hui, nous servent encore pour gérer l'église de Christ, pour comprendre les situations difficiles. Il va parler avec les couples, il va parler comment on traite les veuves, les orphelins, comment gérer des situations complexes. Paul va donner des clés que quand tu lis les évangiles, les quatre évangiles, on voit Jésus qui est sur terre, qui applique la loi comme les gens de son temps. Il répond à la loi et accomplit la loi. Et on a Paul maintenant qui dit, on n'a plus besoin de répondre à la loi. On n'a plus besoin d'appliquer la loi dans notre vie parce que Christ est notre loi. Yes. Il est en train de faire la suite de ce que Dieu a mis sur terre pour que nous, on puisse marcher dedans. Et aujourd'hui, tu peux être une influence tout comme Paul. Il y en a qui vont dire, mais non, c'est trop intense là. Tu as vu toutes les lettres qu'il a écrites. Tu as vu comment il était. Mais il dit, la seule façon de le faire, c'est de ne plus t'appartenir. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Christ. Et tu ne t'appartiens tellement pas que tu appartiens à ton conjoint et lui t'appartient. Mais les deux ensemble, vous ne vous appartenez pas parce que vous appartenez à un qui est plus grand que vous. C'est Christ. Et quand on comprend ça, on commence à marcher dans un système qui n'est plus le système du monde. Mais Paul est en train de mettre en place des principes, des règles qui nous montrent que c'est possible de répondre à une loi qui est plus grande que la loi de l'Ancien Testament. C'est Christ lui-même notre loi. Et il dit quoi? Je vais inscrire cette loi dans ton cœur. Quand Jésus vient, il vient où? Dans notre vie. Il vient habiter en nous. L'Ancien Testament nous dit, je vais inscrire ma loi dans ton cœur. Christ vient, il dit, moi je veux venir dans ton cœur. C'est merveilleux. Dieu veut nous inciter à nous aussi chercher, non seulement à imiter Paul, mais à aspirer à Christ vivant en nous. Il dit, je ne cesserai. À un moment donné, Paul va mentionner ça. Et si vous regardez les réseaux sociaux, il y a une des choses qui m'irritent, c'est les fausses doctrines qui sortent. Il y en a à tous les jours, il y a une panoplie. Et il va mentionner ceci. Il va dire, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui que je vous annonce, qu'il soit anathème. Il va mentionner ceci. J'aurais voulu mourir à votre place pour que Christ soit formé en vous. Ça, c'est cet homme qui tuait des chrétiens. Maintenant, il dit, moi, je vais venir mourir. Si je pouvais, je mourrais pour que Christ soit formé en vous. Voilà ce que Christ peut produire dans la vie de quelqu'un qui s'abandonne à lui. Une transformation radicale de celui qui tuait des gens qui croyaient en Christ. Maintenant, il est prêt à mourir pour Christ. C'est merveilleux. Il n'y a que Dieu pour produire ça dans la vie de quelqu'un. Il n'y a que Dieu pour produire ça dans la vie de quelqu'un. Galates 1, 2, verset 20, Paul va mentionner, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Est-ce qu'on peut dire ça, nous? Si je vis, vous pouvez le répéter, si je vis, mais avec conviction vraiment, sachant que Dieu va le produire en vous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Christ soit formé en nous. Alléluia. Paul va écrire 9 lettres à des églises. Il va écrire à des églises pour mettre des choses en ordre, comme dans Corinthiens. Si vous lisez Corinthiens, vous allez voir que ce sont des gens qui vivaient dans les dons spirituels, qui vivaient dans les choses de Dieu, qui recherchaient les dons. Et il va dire, recherchez les dons, c'est correct de les rechercher. Cherchez par-dessus tout le don de prophétie pour être guidé par le Saint-Esprit. Mais en même temps, vous ne pouvez pas mélanger les dons avec toutes sortes de choses malsaines, sans amour. Donc, il va dans 1 Corinthiens 13, il va parler de l'amour qui surpasse les dons. Que même si tu as tous les dons, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça, c'est Paul qui en parle. Pourquoi il met de l'ordre dans une église où les gens vivent n'importe comment? Il va parler aux Galates, il va parler les Romains, il va leur expliquer les choses. Romains 6, Romains 8, où il assoit l'identité du chrétien. Éphésiens, on voit Jésus comme un chef, comme celui qui a tout en lui. Il soutient tout, il porte tout. On a besoin de réaliser que Dieu veut aussi nous utiliser. Il veut aussi qu'on soit une influence. Cet homme nous influence encore aujourd'hui dans notre lecture biblique, quand on regarde ce qu'il a écrit à Philémon ou à Timothée. On se dit, mais Seigneur, je veux vivre plus que ça. Je ne veux pas juste... Ma prière pour nous, c'est qu'on ne vive pas notre vie chrétienne juste en la regardant passer, mais qu'on laisse un héritage, qu'on a su qu'il y a une trace de nous à quelque part. Il y a une trace des larmes sur le plancher où est-ce que tu as prié. Il y a une trace des pas, des danses que tu as fait devant ton Dieu. Il y a une trace à ton travail où les gens disent, mais quand elle a prié pour moi, j'ai été guérie. Elle m'a parlé, j'ai senti la présence de Dieu. Juste un exemple comme ça, on parlait avec une dame dans notre voisinage, puis tout d'un coup, on parlait juste comme ça. Puis elle dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Là, mon mari dit, on n'a rien fait. Elle dit, il y a comme quelque chose là qui est là, ça m'a saisi. Elle dit, puis là, elle se met à pleurer. Puis on lui a expliqué c'est quoi la présence de Dieu. Et on l'a invité à donner sa vie à Christ. Et drôlement, elle a dit, je ne suis pas prête. Mais j'aimerais ça revivre ça. Fait qu'à chaque fois qu'elle nous voyait dans le stationnement, elle accourait. Vous pouvez prier pour un truc? Et là, on priait, puis on disait, quand t'es prête, si jamais tu veux venir, les dimanches, nous, on va à l'église. On l'a invité plusieurs fois. Les gens font leur choix. Mais il y a une chose qui l'attirait, c'était la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dans ta vie peut faire la différence autour de toi. Et là, Dieu, les gens cherchent à être influencé par la bonne chose. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas être influencé par n'importe quoi, par tout ce que les gens disent, mais il faut être influencé par Christ. Et on emmène l'influence de Christ où on va. On veut rayonner autour de nous et que Christ, l'espérance de la gloire, vienne dans la vie des gens et fasse la différence. Ce matin, j'aimerais nous interpeller à devenir ces témoins. ces gens dont la Bible parle des disciples en disant ces gens qui ont bouleversé le monde. Est-ce qu'on pourrait dire au carrefour des nations que peu importe où tu es rendu avec Christ, peut-être que ce matin c'était ta première fois de m'entendre parler, puis tu dis mais je ne comprends pas comment elle a fait. J'ai étudié pour pouvoir vous amener la parole ce matin, mais chacun porte quelque chose. Même si tu viens juste d'arriver à Christ, tu peux parler à quelqu'un de ce que tu vis avec Jésus. De ce qu'il t'a dit ce matin, peut-être en sortant tes poubelles, il t'a dit « Dépêche-toi parce que le camion va venir tout de suite. » Hein? Mais non, tu prends ton temps, tu vois le camion arriver et tu cours. Non, des petits trucs, Dieu est dans les détails. Si vous le mettez, la parole de Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Ce n'est pas juste dans les finances, mais c'est dans les détails de nos vies. Dieu est intentionnel dans les détails de nos vies. Et si, comme Paul, tu veux dire, Seigneur, viens dans les détails de ma vie, parce que non seulement je veux que Christ m'influence, mais je veux influencer d'autres pour toi. Je veux porter un fruit. Le fruit qu'on a qui est spirituel, ça demeure éternellement. Les fruits qui sont produits par le Saint-Esprit en nous demeurent éternellement. Donc, ce n'est pas l'effort pour le fruit, ce n'est pas nous qui le produisons, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous si on lui laisse la place. Donc, ce matin, si c'est ton cas, tu dis, moi, je veux non seulement être influencé par Dieu, mais je veux influencer autour de moi. Je vais juste mentionner rapidement à nouveau tout ce que la vie de Paul a pu produire. Et vraiment qu'on puisse réaliser. Peut-être que Dieu, il te parle depuis des années sur quelque chose que tu attends. Tu dis, je vais attendre. Mais Seigneur te dit, tu peux porter des fruits maintenant. Tu peux te lever maintenant. Tu peux investir maintenant dans la vie spirituelle, dans ta vie spirituelle et laisser ta marque. Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ. Il est devenu auteur et écrivain. Il est devenu père spirituel pour Timothée, encourage Philémon, il assoit l'identité du chrétien, il fait la différence entre la grâce et la loi, et j'en passe. Il fait beaucoup plus que ça. Ses lettres ont établi comment ça doit se passer dans l'Église. C'est quoi la structure de l'Église? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Comment on doit gérer notre vie spirituelle? Comment on doit marcher avec Dieu? On voit que Paul a été appelé, baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu l'a mis à part avec Barnabas. Il n'a pas marché tout seul. C'est un homme d'équipe. Il y a toutes sortes d'exemples dans sa vie. On voit qu'il part toujours en voyage avec quelqu'un d'autre. Il fonctionne avec d'autres. Il élève d'autres. On voit qu'il arrive à la fin de sa vie, puis il va écrire encore pour dire, j'arrive à la fin de ma vie. Mais voilà, puis il va écrire. Ce matin, peut-être que tu peux être un père spirituel pour quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être que c'est le temps pour toi de dire, je vais être un témoin efficace autour de moi. Peut-être que tu te dis, ben, je vais commencer à laisser le Saint-Esprit diriger ma vie. Je vais laisser Dieu... Je vais lui donner une chance. Des fois, on dit ça, on veut donner une chance à Dieu. On a quelqu'un qui nous a dit, moi, je lui donne encore 3 ans pour me prouver qu'il existe. J'ai dit, mon gars, t'as fait une drôle de prière parce que je t'assure qu'il va te prouver qu'il existe. On a un Dieu qui est vivant. Et ce matin, si tu dis juste, moi, je ne sais pas dans quelle zone je vais influencer, je ne sais pas si c'est à mon emploi, je ne sais pas si j'ai quelque chose sur ma vie pour, je ne sais pas moi, est-ce que je vais prêcher, est-ce que c'est dans l'église, à l'extérieur de l'église, est-ce que je vais avoir un impact autour de moi, mais j'aimerais ça être une influence. Et que tu veux dire, Seigneur, juste viens, puis montre-moi ce que tu veux faire avec moi. Je veux me donner comme Paul s'est donné. Je veux m'abandonner à toi. Si c'est ton cas, juste te lever, puis je vais prier rapidement avec toi. Je vais prier vraiment que le Seigneur puisse intervenir. Si vous, déjà tu sers dans l'église, tu fais des choses, mais tu sens comme une pression sur ton cœur pour aller plus loin, peut-être même pour aller à l'école biblique. C'est la saison des cours qui commence bientôt. Je prêche pour ma paroisse. Si c'est juste de grandir dans ta vie spirituelle, grandir dans ton couple, il y a des choses que tu laisses là, que tu dis, je le ferai demain, mais que tu sens que Dieu frappe à la porte et qu'il dit, je veux régler ça. Si c'est ton cas ce matin, juste te lever à ta place, puis je vais prier. Parce que Dieu fait grâce ce matin, c'est pas un Dieu qui pointe du doigt, qui dit, t'aurais dû te lever depuis longtemps, non. C'est un Dieu qui dit, moi je suis encore là et je veux que tu sois une influence. Peu importe la saison dans laquelle tu es, je vais emmener un message bientôt sur le fait de continuer à influencer au travers de nos épreuves, d'être une influence au travers des tempêtes de nos vies. Parce que Dieu le fait au travers de nous, même si on est dans une tempête. Et ce matin, même si tu es dans une tempête, je veux juste prier qu'au travers de ça, il sorte un fruit qui impacte les gens autour de toi. Parce que ton attitude au travers de la tempête aussi peut amener à faire une différence dans la vie de quelqu'un, à influencer des gens à marcher pour Christ. Alléluia. 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 Soria raba ke shanda si karabashi. Alléluia. Je vais te demander de t'imposer les mains. M'imposer les mains. Oui, tu vas mettre la main sur ton cœur. Parce que décider d'influencer, décider de marcher pour Christ, c'est un engagement. Et c'est en toi et ton Dieu. Alléluia. C'est Karab. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Certains ici, Dieu vraiment met un manteau d'autorité sur vous pour certaines sphères. Plusieurs fois, ne crains pas les hommes, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il va dire à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia Seigneur. Jésus, Saint-Esprit, viens mettre ton sceau ici dans ce lieu. Viens mettre ton sceau, Seigneur Jésus. Plusieurs, ça fait longtemps, vous avez senti l'appel de Dieu dans vos vies, mais il y a trop de choses à laisser, à abandonner. Alléluia. Mais Seigneur, il te dit que c'est pas à pas, il va te montrer à chaque jour comment faire pour marcher avec lui. Alléluia. Et ce qu'on gagne avec Dieu, il le dit, il n'y a personne qui laisse des choses pour Christ qu'il ne récompense pas. Avec des biens, avec des choses célestes aussi, des choses venant d'en haut. Et même si tu vis de la persécution, sache que Dieu est avec toi et qu'il va consoler au-delà de ce que tu as perdu pour lui. Alléluia. Seigneur, je vais te prier pour tous ceux qui sentent qu'il y a des choses qu'ils ont dû laisser, qu'ils ont laissé ou qu'ils vont laisser pour toi. Des relations peut-être qui ont été laissées. Et Seigneur, je te prie pour la consolation qui vient de toi. Que tu leur montres, Seigneur, toutes ces choses que tu as en réserve pour eux, qui sont beaucoup plus, avec une beaucoup plus grande joie que ce qu'ils ont laissé. Certains ont laissé des pays tout entiers, des relations qui étaient là bâties depuis longtemps. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui se sentent seuls dans ce chemin que tu as tracé. Que tu viennes et que tu retisses des relations autour d'eux, des amis, des vrais amis. Que tu consacres, Seigneur éternel, que tu leur donnes, Seigneur Jésus, au-delà de ce qu'ils ont perdu. Parce que tu es fidèle. Tu viens consoler les cœurs. Alléluia. Alléluia. Certains, ce matin, cette parole qui disait, je vais au camp de l'ennemi, je repris ce qu'il m'avait volé. C'est pour toi. Donc, Seigneur, je priais que ce qui a été volé soit restitué maintenant dans le nom de Jésus. Ce ne sont pas des choses que tu as demandé de laisser, mais ça a été volé. Je défais ça maintenant. Je chasse le voleur maintenant. Je chasse les sauterelles maintenant. J'appelle ta grâce, ton amour, ta consolation, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour une onction rafraîchie. Je prie que l'onction coule sur chaque personne qui dit, je veux mettre à part pour toi. Je veux être une influence. Tu donnes l'onction pour chaque domaine où est-ce que tu les appelles à influencer, à être un représentant, un ambassadeur pour toi. Seigneur, je prie pour des fruits abondants dans les vies, Seigneur. Je prie que tu parles, Seigneur, que tu commences à travailler, Seigneur, que tu rendes leur travail facile, Seigneur, ce qu'ils vont faire, lorsqu'ils vont parler, qu'il y ait des résultats pour encourager. Seigneur, merci, Seigneur, que même dans les lieux de travail, tu vas leur montrer quoi faire, quoi dire, afin de voir des gens venir à toi, afin de voir leur travail avoir du succès. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans les domaines médicaux, dans les domaines de psychologie, Seigneur, je prie pour des guérisons surnaturelles, Seigneur, à cause de leur prière, qu'une onction pour de berger soit renouvelée dans leur vie, Seigneur, une onction particulière pour guérir les cœurs brisés soit relâchée maintenant. Seigneur, je prie que les dons spirituels soient relâchés, que les cieux soient ouverts sur les vies, que tu les surprennes, Seigneur, que lorsqu'ils vont parler, lorsqu'ils vont prier, ils vont voir les choses arriver sous leurs yeux. Tu leur donnes une foi renouvelée, une audace. Je prie pour une audace nouvelle. Je prie pour une audace nouvelle dans les vies, une audace pour oser demander de grandes choses. Le don de foi est relâché dans ce lieu pour demander de grandes choses à Dieu. Il y en a, vous avez reçu ce don-là, vous ne savez pas quoi faire avec. Demandez les choses impossibles, les choses que vous sentez que si c'est d'ordre humain, ça ne va pas arriver, mais que ça prend le miraculeux don. Osez demander les choses impossibles et voyez Dieu agir. Si vous avez reçu le type de don qui est un don de foi, vraiment relâchez-le. Commencez à prier en alignement avec la foi que vous avez reçue. Seigneur, merci pour les manteaux qui sont déposés. Merci pour les vêtements qui sont en train d'être changés, Seigneur, pour un vêtement d'audace, un vêtement de louange maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie pour que l'onction coule à flot dans les vies et que tu les oignes, Seigneur, d'une nouvelle audace, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Yes. Alléluia. Alléluia. Je vais juste reprier pour quelque chose. Tous ceux qui veulent prier pour ceux qui ont des maladies mentales, qui ont des maladies au niveau des déconnexions dans les pensées, toutes les maladies concernant la dépression, concernant la bipolarité, concernant la schizophrénie. Si vous voulez être équipé pour prier pour des gens qui ont ces maladies-là et les voir guéris, j'aimerais prier pour vous que l'onction de Dieu repose sur vous et que vous puissiez avoir l'audace pour le faire. Et si vous êtes dans des endroits où est-ce que vous exercez au niveau du psyché, j'aimerais prier pour vous maintenant. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant. Alléluia. Une onction particulière pour guérir au niveau mental. Que ça soit relâché au milieu de nous et qu'on soit surpris de ce que tu vas faire au travers de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour des paroles de sagesse, des paroles de connaissance afin d'avoir les clés, d'avoir la source de où ça a commencé, afin d'apporter la guérison. Seigneur, qu'une huile fraîche de guérison coule maintenant pour ce sujet. Seigneur, tu leur donnes des yeux, Seigneur, spirituels, afin de voir, de discerner quand c'est mental, quand c'est spirituel, parce qu'il y a comme une acuité que tu vas donner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette acuité au niveau du discernement des esprits, et que tu leur donnes, Seigneur, de voir, afin d'appliquer le bon remède, que ce soit spirituel ou au niveau psychologique, Seigneur, je prie que tu relâches cette onction au milieu de nous, cette onction que tu as utilisée envers le fou de Gadara. Je prie que cette onction, Seigneur, qui brise les jougs au niveau des maladies mentales, soit relâchée au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus. Et je prie pour l'audace, qu'on puisse prier pour ces cas avec audace, Seigneur. Avec audace, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour une huile de joie dans la vie de chacun de ceux qui se sont levés pour ce sujet. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Je ne veux rien ajouter. Sois béni, pasteur Marjorie. Soyez béni, soyez fortifié. La parole de Dieu nous encourage à lui faire confiance. Et je ne voulais pas ajouter, mais je vais ajouter. Je suis désolé. Chaque époque, chaque siècle a sa forme de lèpre. Vous savez, à l'époque de Jésus, la lèpre était l'un des pires fléaux. Au niveau des maladies infectieuses. Et aujourd'hui, il y a toute forme de, entre guillemets, de lèpre, de maladie qui nous dépasse. De sorte que il y a cette supplication dans Luc chapitre 5, verset 12. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce qu'il n'y avait pas d'autres ressources. Et on est dans des situations, des fois on dit, mais c'est impossible, il n'y a pas d'autres ressources. Mais voilà ce que Jésus va dire. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Et je discerne dans mon esprit, je discerne dans mon cœur qu'il y a des situations impossibles à laquelle, ou plutôt pour lesquelles, Dieu dit, j'interviens, sois pur, sois délivré de cette situation, sois délivré, sois guéri de cette situation. Et je veux vous inviter à saisir cela. Vous pouvez prendre le temps de lire Luc chapitre 5, les versets 12 et 13. Prenez le temps, et combien Jésus honorait les autorités médicales de l'époque, qui c'était les sacrificateurs. Saisis ta guérison, et quand ta condition, tu vas te sentir bien, va voir ton médecin, fais les examens, suis le protocole sanitaire de santé afin de rendre gloire à Dieu. Ce matin, je veux m'arrêter ici, et je veux aussi remercier ceux et celles qui sont impliqués dans la peinture, dans le projet J'aime mon prochain. Vendredi, tous ceux qui étaient là vendredi et tous ceux qui étaient là dans le passé pour peindre à l'église, simplement vous levez. J'aimerais qu'on puisse vous voir. Sinon, je vais vous pointer. Paul, oui. Lila, tu peux te lever aussi. David, tu peux te lever. Tu étais là il y a plusieurs semaines de ça. Nous voulons aimer notre quartier en commençant à aimer nous voulons aimer notre quartier en commençant à aimer le collège Stanislas. Pendant la pandémie, nous avons été affectés quand même financièrement, et le collège, on a pu avoir une entente afin que notre loyer soit baissé, mais aussi de bénir le collège en faisant de la peinture. Et ces hommes et ces femmes se sont mouillés ou se sont trompés les doigts dans la peinture. Et vraiment, merci. Il y aura d'autres semaines, d'autres jours de peinture parce qu'on n'a pas terminé. Vendredi prochain, samedi prochain, Nous allons faire de la peinture, vous allez le voir sur notre page Facebook. Donc, si vous avez à cœur de vous joindre à nous pour peindre, venez nous voir. Vraiment, merci à vous. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie vraiment. Soyez bénis. Et on peut les applaudir. Vraiment, merci. Pour les parents dont les enfants sont avec l'équipe de l'éducation chrétienne, les enfants jouent dehors, donc ils vous attendent. Vous pouvez aller les chercher. Ils sont dehors avec nos moniteurs, donc vous pouvez aller les rejoindre. Et je clôture par un mot de prière. Seigneur, je te demande de bénir ta parole, Seigneur, en accomplissant tout ce qui a été déclaré. Seigneur, que nos cœurs soient transformés. Seigneur, que nous voulons être influencés par Christ comme Paul l'a été, afin de devenir des influenceurs, afin de devenir ceux qui influencent pour ta gloire. Seigneur, je te prie de bénir, de prendre soin de ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Prenez tout en respectant les distanciations physiques et le port du masque. Prenez le temps de vous saluer, d'encourager ceux aussi.